Et aujourd'hui, nous allons voir dans Genèse, chapitre 31. Alors, pour résumer un petit peu, précédemment, nous avons vu Jacob, le trompeur, qui se fait tromper par son oncle Laban. C'est Arnaud qui avait apporté un message le dimanche dernier. Et à ce moment-là, il se fait extorquer 7 ans pour obtenir à 2 reprises la main de Rachel, qu'il aimait tant. Et puis nous avons vu aussi Léa, l'aînée qui a été introduite dans la nuit de noces en douce par Laban pour qu'elle trouve aussi un mari, pour que Laban aussi puisse aussi enrouler encore une fois son neveu Jacob pour 7 ans de travail pour rien. Voilà, nous avions vu cela la dernière fois. Et puis les 14 ans sont passés. Maintenant, Jacob n'a plus de dettes et il veut mettre à son compte un peu d'argent pour survivre, pour vivre un peu plus aisément. Et plutôt, en tout cas, il aimerait avoir un salaire normal. Je crois que à ce moment-là, Laban, il savait, il était, je pense, reconnaissant d'avoir avec lui Jacob, puisque grâce à lui, et surtout grâce au Dieu éternel de Jacob, qu'il a pu obtenir autant de richesses. Ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Abimélec qui, justement, en côtoyant Isaac, il savait très bien d'où venaient toutes ces richesses, d'où venait justement ce moyen pour pouvoir trouver aussi les puits à travers Isaac. De même, oui, Laban aussi savait que la grâce qu'il recevait, c'était aussi grâce à l'Éternel, le Dieu de Jacob. Donc après 14 ans, Jacob propose à Laban de prendre les agneaux tachetés, rayés, qui étaient rares en Orient, comme salaire. Voilà, donc il décide, il propose à son oncle, voilà, j'aimerais avoir un salaire, mais que tu me disposes les bêtes, les agneaux qui vont naître, mais ceux qui sont rayés et tachetés, qui sont en général très très rares en Orient. Et puis il lui propose aussi les chèvres noires qui étaient aussi rares. Laban, bien sûr, après avoir entendu cette petite proposition, il est enchanté, c'est normal. Il se dit, la fortune sera à lui, puisqu'il demande peu. Mais finalement, il va vite déchanter, car Dieu va intervenir, et il va vraiment faire en sorte que toutes les bêtes bien portantes, robustes, seront tachetées ou rayées, ou noir. Dieu, par la suite, se révèle auprès de Jacob en disant que, en fait, tout ce que tu as pu obtenir, c'est grâce à moi. Hein? Il lui rappelle que toute la source de cette bénédiction vient de lui. Et là, on arrive au chapitre 31. Cela fait maintenant 14 ans que Jacob avait travaillé gratuitement pour Laban, et puis 6 ans qu'il avait travaillé pour son compte. Maintenant, il est devenu riche, grâce à Dieu. Malgré que Laban ait changé 10 fois les conditions de son salaire. Par exemple, au départ, il disait à Jacob, « Bon, bah, je vais te donner le salaire. » Et puis, donc, il était d'accord pour les tachetés, les rayés et puis les noirs. Et puis, il s'est dit, « Ah non, là, tu deviens trop gourmand, tu deviens trop riche. On va faire en sorte que tu aies seulement... des bêtes qui sont rayées. » Et là, toutes les bêtes étaient rayées. Après, il change encore de proposition. Il va dire, non seulement les tachetés, et ce sera seulement les tachetés qui vont naître. Donc, ainsi, par la grâce de Dieu, en tout cas, il est devenu riche. Finalement, 20 ans sont passés. Dieu a bien forgé son enfant Jacob, à travers les épreuves. Il a quand même connu pas mal d'épreuves. Et puis, pendant 20 ans, Rachel aussi, elle a connu pas mal d'épreuves. C'est vrai que c'était une belle femme, choyée par tout le monde, mais elle a perdu son mari au jour de son mariage. Elle a été brisée, elle a été déprimée même par cela. Et puis, non seulement son père l'a utilisé pour avoir des biens en plus, Mais en plus, elle va devoir partager son mari avec sa propre sœur. C'est aussi une blessure. Mais heureusement, cette blessure a été aussi cicatrisée, on peut dire comme ça, par l'amour de son mari. Mais le problème, c'est qu'elle était stérile. Elle souffrait de cela. Elle devient jalouse de sa sœur qui avait beaucoup d'enfants. Du coup, elle donne sa servante Bilha pour une, entre guillemets, insémination artificielle, parce que à l'époque c'est pas naturel, je dirais, sa servante Bilha lui appartenait, donc les enfants que sa servante allait avoir devenaient ses propres enfants aussi. Cela rappelle un petit peu l'histoire de Abraham, n'est-ce pas? Abraham et Sarah qui justement était stérile et finalement elle demande à sa servante Agar de connaître son mari pour avoir son fils Ismaël. Voilà, bonjour les dégâts. Hein. Rachel, donc, malgré tout, est aimée par son mari. Malgré la tromperie, malgré toute cette blessure, malgré qu'elle était obligée de partager son mari avec sa propre sœur, elle reçoit beaucoup d'amour de la part de son mari, mais aussi de Dieu aussi. Et finalement, elle va avoir un enfant qui s'appelle Joseph. Jacob, lui aussi, il est trompé. Il est brisé par son propre oncle. Il a rencontré le maître de la tromperie. Et là, il souffre, bien sûr, mais il a dû voir, à travers le comportement de l'autre, son oncle, son propre image. Et ainsi, peut-être comprendre ce qu'il a pu commettre dans le passé. On revient maintenant à Léa. C'est Léa qui a le cœur le plus brisé, blessé. Non seulement elle avait déjà souffert auparavant parce qu'elle n'était pas très belle, elle avait des handicaps, et puis elle a été vendue comme une marchandise, elle se considère comme ça, par son propre père pour devenir la femme de Jacob. Qui ne l'aimait pas. Et ce n'était pas un mariage béni par tout le monde. Elle a dû, surtout voir son mari amoureux de sa jeune sœur était aussi une souffrance. C'est une femme vraiment complètement blessée dans cette histoire. La question que je me pose, c'est: si vous deviez être entre Rachel et Léa, qui aimeriez-vous être? Rachel, qui a plein de... Voilà, elle est choyée avec sa beauté, elle est aimée par son propre mari, et puis Léa, la pauvre, qui est mise un peu de côté, même par sa propre famille. Qui aimeriez-vous être à votre place? Il n'y a pas photo, hein. C'est Rachel, hein, normalement. On aimerait être Rachel que Léa. Recevoir l'amour de l'autre, des autres, c'est quand même, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait monter notre fierté, un peu de reconsidération. Enfin bref. Léa, pendant ce temps, elle se sentait vraiment seule. Elle se sentait vraiment seule, triste. Imaginez, elle a été délaissée par son propre père, par son mari, par sa sœur. Elle devait se sentir vraiment seule. Est-ce que vous vous sentez seule aujourd'hui? Il arrive aussi de se sentir seule. Il y a des gens qui se sentent seuls, qui souffrent aussi de la solitude. Surtout avec le Covid, avec la situation actuelle. Il y a des gens aussi, comme Léa, qui se sentent mal aimés, parce que, voilà, ils n'ont pas forcément la vie facile. Ils ont eu des conditions de vie difficiles, peut-être les parents qui n'ont pas été des bons parents. Il y a des gens aussi qui ont eu peut-être des handicaps pour s'épanouir comme d'autres personnes. Ou encore, Sentez-vous mal aimé? Comme Léa? Sachez que dans cette histoire, nous voyons que Dieu intervient. Dieu aime Léa. Dieu veut consoler Léa. Au chapitre 29, verset 31, il est dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Voilà donc le Seigneur l'aide à avoir un enfant et par la suite encore d'autres enfants. Vous savez que non seulement elle a eu Ruben, mais elle a eu Siméon, elle a eu Lévi, elle a eu Judas. Après les quatre enfants, voilà, elle s'arrête d'enfanter. Du coup, elle demande encore à sa servante d'enfanter à sa place. Et puis, plus tard, le Seigneur lui bénit encore une fois. Et elle arrive encore à avoir Issachar, Zabulon. Donc ça fait 6 garçons, plus une fille qui s'appelle Dina, la dernière fille pour Léa. Or, parmi tous ces enfants de Léa, qui est Judas? Après 3 naissances, Judas, c'est la 4e, et c'est à ce moment-là qu'elle loue vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et c'est à travers cet enfant que, par sa descendance, que Jésus-Christ, le Sauveur de l'univers, ainsi va naître. Ainsi, à travers la descendance de Judas, que le monde entier sera béni. N'est-ce pas formidable? C'est l'enfant de Léa qui va permettre de bénir tout le monde. Je repose la question, qui aimeriez-vous être maintenant? Léa ou Rachel? Peut-être vous avez monté votre estime vis-à-vis de Léa. Enfin bref, Jacob a passé 20 ans, il a 2 femmes, ou voire 4, puisqu'il a eu aussi des servantes. Vous savez que Rachel, comme elle ne pouvait pas enfanter, elle a donné Bilha, sa servante, pour avoir des enfants. Puis finalement, elle a eu aussi d'autres enfants, elle a eu aussi Joseph, ce qui fait que, après 20 ans, Jacob a 11 enfants, 2 femmes, 2 concubines, et des serviteurs, et beaucoup de richesses, des bêtes, etc. Et donc, on arrive au chapitre 31. Ici, Jacob a 2 soucis. Après 20 ans passés, maintenant, il se dit, il se rappelle, bon, il avait toujours, il savait très bien la promesse de Dieu, mais il a un devoir à faire, c'est-à-dire retourner dans son pays. Surtout, réconcilier avec son frère. Et ça reste encore une difficulté à surmonter. Donc ça, cette histoire-là, vous verrez à la semaine prochaine avec Daniel. Mais avant tout encore, il a encore une autre mission à accomplir, puisqu'il doit partir de la maison de Laban. Et ce n'est pas facile, parce que Laban est un escroc, on le sait, c'est un bandit. Et que, en plus de cela, d'après la coutume de l'époque, les étrangers ne pouvaient pas partir sans consentement avec sa famille et ses biens si le chef de famille ne permet pas. C'est-à-dire que si Laban dit « Non, tu ne repartiras pas avec mes enfants, mes petits-enfants », il ne pouvait pas partir. Du coup, il devait repartir seul. Ça, c'était la coutume pour les étrangers. Alors, comment en tout cas, donc, il avait encore un autre problème à surmonter. Mais malgré tout, après 20 ans passés, il discerne, il voit que c'est le temps de Dieu. Comment il a pu voir que c'est le temps de Dieu? Tout simplement, en observant tout ce qui se passe. Tout d'abord, au chapitre 31, verset 1, il est dit « Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent les enfants de Laban? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il l'a acquis avec l'accord de son beau-père. Et puis, il les a acquis légalement, sans tricherie, sans voler son oncle. C'est la première fois qu'il expérimente que, voilà, sans tromper les gens, en étant un honnête homme, en étant fidèle dans son travail, il peut gagner sa vie très bien et recevoir la bénédiction. Et donc, c'est encore une expérience, une étape qu'il a pu aussi traverser et retenir pas mal de leçons. Alors, comment réagit Laban après avoir vu toute cette richesse obtenue par Jacob au verset 2? Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, j'ai dû voir cela en hébreu pour traduire littéralement. En fait, Jacob a vu face à face le visage de Laban. Vous savez, c'est une expression. Et quand il a vu vraiment de visage en visage, son visage n'était plus le même. Il n'était plus comme avant. Vous savez, on se croise des gens, et puis quand on se croise des personnes qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les sentiments qu'on exprime? C'est un sourire, on est content, salut, ou encore un petit clin d'œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on voit quelqu'un avec qui nous avons des affinités, nous avons des bons sentiments, voilà, on est très joyeux, parce qu'on apprécie l'autre, mais ici, apparemment, Laban n'était plus comme avant. Il n'avait plus des bons sentiments. Peut-être il était figé, sans expression. Peut-être il faisait des grimaces ou il détournait carrément le visage pour ne pas le voir. On ne sait pas. J'espère que vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, hein, que vous puissiez avoir des bons sentiments, que vous êtes en paix avec tout le monde. Enfin bref, il y avait un... Il sentait cette relation conflictuelle qui est en train de naître, ou même qui est déjà présent. Au verset 3, « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Non seulement, après 20 ans, il voit que les circonstances font que il devrait partir, en fait. Il devrait partir. Et en plus des circonstances actuelles, il entend bien sûr la voix du Seigneur qui dit « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. » Une promesse de Dieu. « Je serai avec toi. » Il entend la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Comment vous réagissez quand on vous dit « Dieu est avec toi. Que Dieu soit avec toi. » Est-ce que c'est juste une salutation? Ou vraiment vous le croyez et que vous dites « Amen ». Oui, le Seigneur est avec moi de manière concrète, pas de manière vaguement, mais de manière précise. Et il agit dans ma vie personnelle. Bref, à travers les trois versets que nous venons de lire, nous pouvons remarquer que Jacob reçoit une certaine pression de la part de Laban, mais aussi de ses fils, les fils de Laban. Il reçoit ça comme un signe qui vient de la part de Dieu, mais en plus, il a entendu sa voix directement. Il a entendu sa voix directement. Parce qu'il était face à face avec Dieu. Parce qu'il avait une bonne relation avec le Seigneur. Dans Nombres, chapitre 6, il est dit: parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà, l'Éternel s'est tourné sa face, alors que Laban, lui, il s'est détourné de sa face. L'Éternel s'est tourné sa face vers l'Éternel, vers Jacob, et ainsi il a pu vraiment lui donner aussi la paix pour pouvoir repartir sans craindre, parce qu'il avait une grande crainte de son frère aîné. Non seulement les circonstances permettaient maintenant de partir, mais aussi, voilà, Jacob vient d'entendre personnellement la voix du Seigneur au verset 3. Mais maintenant, et puis les autres circonstances aussi sont favorables. Par exemple, à partir du verset 4, je vais vous lire, je ne vais pas lire tout le chapitre, quelques versets. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Et il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Un peu plus loin, « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. » Verset 14, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de mon père ? Nous ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Voilà, les enfants de Laban, Léa et Rachel sont d'accord pour partir. On a l'impression que les portes s'ouvrent. Voilà, il y a des conflits relationnels avec les enfants de Laban et Laban, et puis avec Laban, et aussi les enfants comme Rachel, Léa, qui sont devenues ces femmes, sont d'accord aussi pour partir de ce lieu. Parfois, vous savez, quand on veut réaliser un plan ou peut-être on a un projet, il y a des portes qui se ferment, tout le temps. Et on se dit, voilà, on a beau faire et mettre tous nos moyens, et ça ne débloque pas. Mais parfois, dans l'attente, quand le temps de Dieu vient, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent. Même pas juste une seule porte, mais plusieurs portes qui s'ouvrent. Et là, j'ai l'impression, ici, en lisant ce chapitre, les portes s'ouvrent vraiment pour que, comme s'il y avait des flèches qui... comment ça s'appelle Comment? Les warnings? Non, c'est pas ça, c'est pas les warnings. Comment? Des balises. Oui, des balises. Qui clignotent pour nous indiquer le chemin à prendre en disant, allez, pars maintenant. J'espère que ça vous est aussi déjà arrivé de vivre cela. Vous marchez et puis le Seigneur dit, mais il faut aller par là. Hein? Il y a des balises qui clignotent comme ça pour nous diriger et il y a des portes qui s'ouvrent. Oui, à ce moment-là, oui. Et puis en plus de cela, Jacob, lui, il avait entendu personnellement la voix du Seigneur. Dieu lui-même a donné sa confirmation. Ainsi, voilà, les portes s'ouvrent. Parfois, il y a ce genre de choses qui arrivent. Moi, j'avais entendu une histoire d'un missionnaire, lui, qui, en Chine. Vous savez qu'en Chine, c'est interdit d'évangéliser et de faire du prosélytisme. C'est pas seulement le prosélytisme, mais évangéliser est une interdiction. Et donc, un missionnaire était en viseur par les policiers. Et là, un jour, les policiers débarquent à l'immeuble. Et ils ont plusieurs dans le couloir, en train de le chercher. Il se dit, mais où est-ce que je vais me cacher? Parce que si je me fais attraper, je vais aller en prison. Et là, il essaie de voir partout, et puis nulle part où se cacher. Il se dit, mais Seigneur, tu es avec moi? J'y vais! Et puis, il y va. Dans le couloir, il y avait plein de policiers, il marche. Et il était presque invisible. Personne ne l'a attrapé pour l'emprisonner, alors qu'il cherchait lui, en fait. Hein? Parfois, oui, quand le Seigneur est avec nous, comme Jacob, il y a des portes s'ouvrent, il y a la protection de Dieu qui est là pour nous. Et puis, je vous disais que Jacob a entendu la voix du Seigneur, mais pour entendre la voix du Seigneur, je pense qu'il était vraiment très très sensible spirituellement. Très très sensible spirituellement, pour pouvoir entendre. Vous êtes sensible à quoi en ce moment? Vous savez, en ce moment, je pense que nous sommes tous sensibles par rapport à Covid, n'est-ce pas? On fait attention, on a mis nos masques, on fait attention lorsque nous rencontrons d'autres personnes. Par exemple, cette semaine, voilà, j'étais assez sensible à ce genre de choses et je me suis dit, depuis lundi, je ne me sentais pas très très bien. Mardi, j'étais vraiment complètement au lit toute la journée. Courbatures, fatigue, des signes de rhume. Et je pensais que j'avais peut-être attrapé le Covid. Mercredi, pareil, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, Dominique me dit, bah, il faut aller te faire tester. Et puis, comme j'étais sensible avec cette maladie de Covid, bah, je suis allé me faire tester. Bah, le résultat, c'est négatif. Merci Seigneur. Mais, voilà, nous voyons des symptômes, on devient plus sensible, on se fait tester. On devient sensible à quelque chose et on réagit à coup de cette sensibilité. De même, est-ce que nous sommes vraiment sensibles spirituellement? Lorsque le Seigneur nous parle, est-ce que je suis assez sensible pour écouter sa voix? Parce que parfois le Seigneur a beau parler, enfin parfois, souvent Dieu nous parle, mais c'est parce que nous ne sommes pas sensibles que nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas cette voix qui est dite clairement. Jacob a pu entendre cette voix clairement. Il a pu non seulement comprendre cela, mais aussi avoir un songe qui permettait d'avoir un face-à-face avec le Seigneur. Et lorsque nous avons cette sensibilité spirituelle et que Dieu nous répond, non seulement il faut juste se réjouir de ce que le Seigneur a exaucé, mais il faut aussi creuser la question, mais pourquoi le Seigneur m'a répondu ainsi? Pour quelle volonté? Pour quelle raison? Voilà, peut-être creuser un peu plus la question pour grandir dans la foi, comme Jacob. En tout cas, Jacob, il avait compris que le temps de Dieu était maintenant présent pour partir. Pour partir. Non seulement au verset 3, Dieu lui a parlé, mais aussi dans le verset 11, l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, maquetés. Car j'ai vu tout ce que te faisait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Voilà, il était sûr que Dieu était avec lui. Il expérimente une relation intime avec le Seigneur. J'ai vu certaines personnes vivre, expérimenter ce genre de relation avec le Seigneur, et que cette expérience formidable, incroyable, reste comme un souvenir. Quelqu'un me disait, écoute, Jean-Haut, voilà, il y a des années de cela, il y a 20 ans, hein, 20 ans, j'ai vu Jésus personnellement. Il s'est montré devant moi. Et c'est comme ça que je me suis fait... Je suis converti ainsi. Ouais, c'est super. Parce que, voilà, c'est pas une expérience... c'est pas souvent qu'on a ce genre d'expérience. C'est une expérience... pas commune, pas commun. Mais oui, c'est super. Mais le problème, c'est que cette personne s'est toujours reposée sur cette expérience-là. Elle n'a pas pensé à grandir davantage. Il faut grandir. Regardez Jacob. Lui, depuis qu'il a rencontré l'Éternel à Bethel, où il s'est battu, hein, où il a vu le songe où les anges aller de la terre jusqu'au ciel par une échelle. Quand il a vu ce songe, quand il a rencontré Dieu vraiment, personnellement, et quand il a entendu la promesse de Dieu personnellement, non seulement il était joyeux, content, mais aussi il a progressé depuis. Il a progressé depuis. Dieu nous façonne, c'est vrai, parfois, les épreuves, mais avant que nous traversions ces épreuves aussi, Dieu nous donne aussi assez de foi pour traverser ces épreuves, pour tenir ferme, pour ne pas être ballotté. Oui, Dieu, en son temps, Dieu nous enseigne. En tout cas, ici, Dieu lui a enseigné et lui a ordonné de rentrer chez lui. De partir était un problème. Rencontrer Ésaü, retourner chez lui était un problème, mais à cause de toute cette conviction ferme, il a pu prendre le courage pour retourner, pour décider de retourner chez lui. Oui, en son temps, Dieu ouvre des portes. En son temps, Dieu nous parle. Tous les jours, nous avons beaucoup de défis et de décisions à prendre, et le monde nous empêche de vivre comme un vrai disciple de Christ. Et là, Dieu nous dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit, et avance, avance. À Bethel, il a reçu cette parole, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Le Seigneur avait protégé Jacob partout où il était. « Je te ramènerai dans ce pays. » Voilà donc la promesse qui n'est pas encore réalisée et qu'il aimerait que ce soit réalisé. « Car je ne t'abandonnerai point. » Voilà donc cette alliance, Jacob a dû se rappeler et va mettre en œuvre pour pouvoir partir. Que le Seigneur nous rappelle à travers cette histoire que, voilà, parfois, on peut vivre des difficultés comme Léa, comme Rachel, comme Jacob, mais il ne nous laisse pas tout seul, malgré tout, et qu'il nous accompagne. Cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde reste toujours valable, il nous accompagne. Que cette année 2021 soit une année où nous expérimentons richement cette présence de Dieu, que notre connaissance en lui grandisse, et que, voilà, que nous puissions aussi avoir notre propre Bethel où nous expérimentons le Seigneur. Et même voir encore, même aller plus loin de Bethel pour vraiment cultiver cette relation avec le Seigneur dans l'intimité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est les annonces, non ? Après.
Je vais inviter les musiciens à venir. Léa et Rachel, merci pour ce tableau là, sur ces personnes. Effectivement, en réfléchissant un peu,